Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet fiscal assez connu, le crédit d'impôt pour les services à la personne, le CIAP en France.
Oui, bonjour. Un dispositif qui fait pas mal parler de lui.
Exactement. Alors pour ça, on s'est basé sur plusieurs sources, un article assez critique d'Alternatives économiques, des données chiffrées de la Cour des comptes et puis aussi quelques éléments tirés de débats parlementaires.
D'accord.
L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ce mécanisme, essayer de comprendre qui en profite vraiment, est-ce que c'est efficace, tout ça en se basant strictement sur les infos qu'on a trouvées. On va essayer de démêler tout ça.
Parfait. Allons-y.
Alors, ce qui saute aux yeux dès le départ, dans les sources, c'est quand même cette répartition de l'aide. Apparemment, 40% du total irait aux 10% des foyers les plus riches.
Ah oui, c'est un chiffre marquant, ça.
Carrément. Pour donner une idée, hein, sur un coût total estimé à 6,7 milliards d'euros pour 2024, les chiffres indiqueraient que 2 milliards iraient aux 20% les plus aisés. Et ça, juste pour le ménage et l'entretien.
2 milliards juste pour ça.
Oui, et pour le jardinage, c'est encore plus frappant. 600 millions sur 800 millions dépensés iraient à ces mêmes foyers aisés.
Oui, et l'une des sources parle même de redistribution à l'envers. C'est assez fort comme terme.
Carrément.
Parce qu'en fait, si on remonte à l'origine en 91, avec les lois Aubry, l'objectif initial, c'était quand même noble. Lutter contre le travail au noir, soutenir l'emploi dans les services.
Oui, l'intention de base semblait sociale.
Tout à fait. Mais au fil du temps, ça a été élargi, élargi, jusqu'à 26 activités différentes. Jardinage, petit bricolage, cours à domicile. Et du coup, selon l'analyse, on est passé d'une aide plutôt sociale à une sorte de subvention pour des services de confort.
Donc des services que les gens aisés pourraient peut-être se payer sans aide.
C'est un peu l'idée soulevée, oui. L'État qui subventionne à 50% des prestations, qui ne relève pas forcément de la nécessité absolue pour tous.
D'accord. Et alors, sur l'efficacité pour l'emploi, parce que c'était quand même un des buts initiaux, la Cour des comptes, elle en dit quoi? J'ai cru lire qu'elle était très critique.
Oui, très critique. Le mot utilisé, c'est insignifiante.
Ah oui, quand même.
Effectivement. On parle d'environ 70 000 emplois créés depuis 2005, ce qui peut paraître pas mal, mais rapporté au coût, près de 9 milliards d'euros en 2022.
Attendez, 9 milliards pour 70 000 emplois? Si on fait le calcul, ça fait...
Ça fait aux alentours de 128 000 euros par emploi créé.
128 000 euros, c'est juste énorme. Mais bon, au-delà du coût, c'est quoi comme emploi? Est-ce que c'est des emplois stables, bien payés?
C'est là où l'analyse pointe un autre problème. Ces emplois seraient très largement à temps partiel. Très partiel même. Yeah. La moyenne, c'est 39% d'un temps plein.
Ah oui, c'est peu.
Oui. Et s'ajoute à ça des bas salaires, des horaires souvent éclatés, une précarité assez forte et une très grande majorité de femmes qui occupent ces postes.
D'accord.
Donc la critique qui ressort, c'est que le système subventionne les employeurs, qui sont souvent aisés, mais sans forcément améliorer beaucoup les conditions de travail des salariés.
C'est un tableau assez sombre, finalement. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour changer ça, pour réformer le système?
Oui, on trouve la mention d'un amendement. Il a été proposé par la députée Christine Pires-Beaune pour le budget 2025.
Ah oui. Et il proposait quoi?
L'idée, c'était de réduire un peu le crédit d'impôt, de le passer à 40% au lieu de 50%, mais seulement pour les services qui ne sont pas liés à la garde d'enfants ou à l'aide aux personnes dépendantes. Donc, cibler un peu plus.
D'accord. Donc, pour les services de confort, justement. Et ça aurait économisé combien?
L'estimation, c'était environ 770 millions d'euros.
Pas négligeable. Et... Ça a été adopté?
Eh bien non, d'après les sources, il y aurait eu une forte résistance. Apparemment, Matignon aurait demandé de temporiser, de ne pas aller trop vite.
La prudence politique.
Voilà. Et puis, il y a aussi le lobbying du secteur qui est mentionné, qui serait assez actif.
Bien sûr.
Et ça renvoie à une réflexion intéressante d'une politiste citée, Nathalie Morel. Elle souligne la nécessité de bien distinguer les besoins sociaux réels, comme la dépendance ou la garde d'enfants, des services de confort, comme le ménage ou le jardinage.
Parce que ce n'est pas la même logique, en fait.
Exactement. Et l'idée, c'est que si on réduisait l'aide pour ces services de confort, ça libérait peut-être des moyens pour mieux financer les aides vraiment essentielles, qui sont souvent inaccessibles pour beaucoup de familles.
D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a un dispositif qui coûte très cher à l'État.
Oui, plusieurs milliards.
Qui semble avoir une efficacité limitée sur la création d'emplois de qualité.
C'est ce que dit la Cour des comptes, oui.
Et qui, en plus, bénéficierait massivement aux ménages les plus aisés, souvent pour des services pas forcément essentiels. C'est ça l'image générale.
C'est tout à fait le portrait qui est brossé par les sources qu'on a consultées, oui. Une des analyses va même jusqu'à parler d'hypocrisie à la française.
Ah oui, carrément.
Le fait de financer avec l'impôt de tout le monde des services domestiques pour quelques-uns, tout en se plaignant par ailleurs des déficits publics. C'est une critique assez directe.
Et la Cour des comptes qui ajoute que, finalement, l'État subventionne le respect de la loi, c'est-à-dire déclarer ses employés. C'est assez paradoxal, non?
C'est un point effectivement assez piquant qui est relevé. Subventionner pour que la loi soit appliquée.
Bon, alors, en résumé final, hein, coûteux, socialement discutable dans sa répartition, peu efficace pour l'emploi de qualité et très difficile à réformer apparemment.
C'est exactement ça. C'est la synthèse qui émerge de ces différentes analyses croisées.
Et pour terminer, peut-être une petite réflexion qui découle de tout ça. Cette idée soulevée via la Cour des comptes que l'État subventionne les plus riches pour qu'ils déclarent leurs employés. Qu'est-ce que ça dit, au fond, de nos choix collectifs en matière de dépenses publiques et de notre idée de la solidarité nationale? C'est une question qui reste ouverte, je pense.
Absolument. De quoi continuer à y réfléchir.